Bonsoir, bonsoir. Merci de me laisser la parole. Ce sera un témoignage ce soir. Et enfin, j'aimerais prendre un peu la suite de ce qui vient de se dire. Merci beaucoup pour les témoignages, pour ce que tu as partagé, Huguette. Ça m'encourage. Et puis, ça me rappelle aussi ce que tu disais il y a quelques années quand on a commencé. Quand j'ai commencé à venir dans cette église, j'étais encore jeune. C'était il y a 25 ans, à peu près. Je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais voilà, j'étais encore très très jeune. Mais pourtant, c'est la première fois que je vois la vision de l'Église. Hein. La vision, tu peux la remettre là sur l'écran. Je lisais ça juste avant et puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est important hein, de savoir la vision d'une Église et de ne pas avoir vu cette vision de l'Église depuis 25 ans, ça me pose question. Je me dis, ben mince, où est-ce que j'étais ? Bon, j'ai des bonnes excuses. Hein. La vision, donc, juste avant. T'arrives à faire un arrêt sur écran ou... Voilà. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, c'est exactement ce que moi, j'ai vécu au travers de Josué. Je suis un fruit de ça, on va dire. Une maison apostolique prophétique qui accueille les projets de Dieu et accompagne les fils et les filles qui vont transformer le monde et restaurer la création. Et c'est ça que j'ai trouvé ici, c'est ce côté apostolique et prophétique que je n'ai pas trouvé dans d'autres églises et dont j'avais besoin dans ces années-là où j'étais ici. Ces années où Dieu commençait à m'envoyer dans les nations. Et Josué a joué un peu ce rôle de m'envoyer, d'être ce fils qui va transformer le monde. Alors bon, à ma mesure, hein, à ma manière... Je ne vais pas transformer le monde, mais disons que, voilà, si on voit dans le prophétique, si. Amen. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et je me souviens d'ailleurs quand j'étais en transition entre l'Afrique, justement, je revenais juste de passer 2 ans en Afrique, et je partais pour Hawaï. Je me souviens qu'il y a eu un temps ici, bon, ce n'était pas ici même, c'était, Dieu sait c'est où, c'était en 99, donc on n'était pas encore dans cette salle, hein. Oui, juste là à côté. Hein. Ouais. Et je me souviens que l'Église avait prié pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais un peu des questions parce que j'étais encore jeune. Dans la mission, je savais que je voulais être missionnaire. Je demandais à Dieu, où est-ce que tu veux m'envoyer ? Dans quel pays ? Où est-ce que je vais aller pour travailler, pour me marier et puis pour mourir ? Ça, c'est l'idée du missionnaire que j'avais. Et puis Dieu ne m'avait jamais montré un seul pays. Et la révélation est venue ce jour-là quand j'étais ici à Josué, juste avant, alors qu'on priait pour moi. Je ne sais pas qui c'est qui a reçu cette parole, mais qui m'a dit « Dieu t'appelle à être un pont entre les nations ». Et ça a été la révélation pour moi. Et enfin, la compréhension de l'appel que Dieu avait pour moi. Et c'est vrai, maintenant, je regarde les 20 dernières années, Dieu m'utilise vraiment comme un pont entre les nations. Et ça, c'est fort. C'est quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur depuis toutes ces années et qui, je vois, produit aussi ses fruits. Et j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et ce soir, je voulais vous partager un peu, non pas sur ce qui se passe à Hong Kong, bon, quoique, avec tout ce que vous entendez aux informations, avec les émeutes et tout ça, les manifestations, ça serait intéressant d'en parler, mais je n'ai pas trop envie de rentrer dans la politique ce soir. Donc, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe à Hong Kong ni dans les 20 autres pays que je suis allé dans les 10 derniers mois, mais j'aimerais parler de ce que Dieu est en train de faire en Afrique. Parce que je suis un pont entre les nations et que Dieu m'envoie en Afrique régulièrement et que c'est vraiment un continent que j'ai à cœur, que j'aime beaucoup et je crois que Dieu m'appelle à influencer, à transformer à ma manière. Et tout particulièrement le Sénégal. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont entendu parler du Sénégal avant, mais j'aimerais partager un peu plus en détail de ce qui se passe au Sénégal, parce que c'est vraiment quelque chose, je crois. On parlait justement de puits qui doivent être débouchés, non pas seulement pour influencer la vallée, mais je crois que ça influence les nations. Et je crois que c'est vraiment l'appel de cette Église, c'est d'influencer les nations. Mais c'est vrai que ça commence ici. Mais ça a déjà commencé depuis longtemps, et je crois qu'il y a déjà un effet, il y a déjà une influence, il y a déjà des choses qui se passent à partir d'ici. On voit les jeunes qui partent aussi, et je veux vraiment, vraiment affirmer cet appel que Josué a, à non seulement avoir une influence ici dans la région, mais aussi dans les nations. Ça, c'est très fort. Depuis 2013 à peu près, je suis impliqué dans un projet au Sénégal qui finalement est devenu un projet qu'on a embrassé en tant que fabricant de joie au niveau international, au niveau de Jeunesse en Mission. Mais c'est en fait un projet du gouvernement sénégalais qui est un projet de reboisement. Ça s'appelle la Grande Muraille Verte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle la Grande Muraille Verte. Alors, moi qui habite en Chine, déjà, la connexion n'était pas très difficile à faire. Donc, quand j'ai entendu parler de ça, ça m'a déjà bien attiré l'attention. Et puis, c'est vrai que même quand j'habitais à Hawaï, Dieu m'a déjà utilisé dans des projets de reboisement, dans des projets d'éveil à la nature, dans des endroits avec des jeunes non chrétiens, et j'ai réalisé combien ces choses-là peuvent aussi être un moyen de partager l'évangile. Et j'aime bien la petite phrase à la fin, restaurer la création. Le reboisement, c'est quoi ? C'est quelque part restaurer la création aussi, d'une manière très concrète, très simple. Et quand on a commencé un peu à comprendre ce qui se passait au Sénégal, le gouvernement sénégalais est en fait un gouvernement de 11 gouvernements de toute l'Afrique subsaharienne qui se sont mis d'accord pour faire une bande, donc une muraille d'arbres verts en dessous du Sahara. Parce que le Sahara avance. Et donc l'idée, c'est de stopper l'avancée du désert dans ces pays en dessous du Sahara. Donc c'est une vision énorme, parce qu'il parle de faire ça à partir de Dakar, donc sur la côte ouest, jusqu'à Djibouti, donc ça fait à peu près 8000 km, et puis ils veulent faire ça sur 15 km de large, donc vous imaginez, c'est quelques milliards d'arbres qu'il faut planter. Mais ce sont des représentants des gouvernements de chaque pays qui se sont mis d'accord pour faire ça, avec des finances. Alors ça, c'est facile à trouver dans le monde de nos jours. On dit qu'on va on va planter des arbres, les sous viennent. Donc c'est bien, on en profite. Alors au Sénégal, c'est les seuls qui sont vraiment actifs, encore au jour d'aujourd'hui. Et le gouvernement a créé une branche de leur gouvernement pour se concentrer là-dessus. C'est donc des membres du gouvernement, c'est donc des militaires qui organisent le reboisement dans le nord du pays, au Sénégal. Donc en fait, nous, quand on a appris ça, on est rentré en contact avec le gouvernement qui nous a accueillis les bras grands ouverts en disant « Oui, on a besoin de main-d'œuvre, on a des plans, on a des finances, mais on a besoin de personnes qui vont planter. » Parce que ben, c'est loin, c'est reculé. Alors ils payent les populations locales pour planter les arbres, mais il n'y a pas assez de monde. Et puis bon, voilà, ça va doucement. Et puis, il n'y a que seulement un mois dans l'année où on peut planter des arbres, parce que sinon, le reste de l'année, il n'y a pas de pluie. Donc, il n'y a que un mois de pluie pendant l'année, et c'est ce mois-là qu'il faut planter. Donc, voilà, ça rend les choses quand même assez difficiles. Donc, quand le gouvernement nous a rencontrés, il nous a accueillis les bras grands ouverts. Il a dit, mais oui, venez, venez, emmenez des gens pour nous aider. Alors, nous, les bons fabricants de joie, on a commencé à contacter tous nos amis à droite et à gauche, et petit à petit, on a formé des équipes qui sont allées, maintenant depuis 2011, presque tous les ans, pour planter des arbres. Et chaque année, on plante 10 à 15 000 arbres en une semaine. Mais alors, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, parce qu'il faut s'imaginer l'endroit où c'est. Ce n'est pas dans la capitale où tout va bien et c'est facile. C'est au nord du pays, c'est presque dans le désert finalement. Il n'y a rien, c'est très reculé. Il n'y a pas de village, ce sont juste trois huttes, trois cases à 10 km les unes des autres, et une base de l'armée qui gère tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un endroit qui est très, qui n'est, en termes de christianisme, qui n'est pas atteint. C'est-à-dire, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de missionnaire à 100 km à la ronde. Et c'est un endroit qui est très musulman. Ce sont les peuples Peuls. Et les Peuls sont très musulmans et ils sont fiers d'être musulmans. Non, ça c'est les Touaregs. Ça. Les hommes bleus, oui, c'est les Touaregs. Les Peuls, c'est une tribu en fait nomade dans les régions désertiques du nord. Donc on les retrouve aussi au Mali et puis dans ces régions là-haut. Et c'est les Schtroumpfs, les bleus, non? Mais donc voilà, ils sont fiers d'être musulmans parce que c'est eux qui ont apporté l'islam de l'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne et bien sûr dans le reste de l'Afrique. Donc voilà, il y a cette identité très forte et comme c'est des milieux très, très éloignés de tout, ils ne sont pas très ouverts à tout ce qui est culture extérieure. Ils n'aiment pas trop les Blancs parce que bon voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter ? Il y a eu des projets avant qui sont venus, qui n'ont pas forcément marché, et puis qui, de toute façon, n'accueilleraient pas une équipe de missionnaires, une équipe de chrétiens qui vont venir les évangéliser. Donc c'est un endroit très, très difficile, même au niveau spirituel. Et donc, le fait d'aller là-bas, planter des arbres, c'est quelque chose de spécial. C'est un privilège. Parce qu'en fait, quand on est arrivé avec des jeunes, très simples, voilà, donc ce n'est pas le missionnaire blanc qui vient avec sa barbe blanche et puis sa Bible, c'était des jeunes très simples qui, voilà, qui sont venus, qui étaient prêts à retrousser les manches, et creuser, et planter des arbres. Et on a fait ça main dans la main avec les villageois. Et ça commençait à les toucher. Ils se sont rendus compte, ces blancs-là, ils ne sont pas comme les autres. Par contre, ils se sont dit, oui, ils ne vont pas durer longtemps. Ils ne savent pas travailler. Non, les Blancs, ils ne savent pas travailler. Ils ont l'habitude de conduire partout, d'aller au bureau, mais non, travail à la main, non, ils ne savent pas faire. Donc, ils nous regardaient un peu du coin de l'œil pour voir combien de temps ça va durer. Puis, quand ils ont vu que tous les jours, on partait le matin à 8h jusqu'à 13h et on bossait vraiment dur pendant toute une semaine, là, ils ont commencé à avoir du respect. Et après, quand ils ont appris qu'on venait du monde entier, alors moi, j'emmène des Chinois, et puis il y a des Européens, des Sud-Américains, il y a un peu de partout. Quand ils ont appris que ces gens-là avaient payé leur billet d'avion pour venir jusque-là, et qu'eux ne sont pas payés pour planter les arbres, alors que les villageois, eux, sont payés, là, ils se sont dit, il y a quelque chose. Pourquoi ? Et ils nous ont posé la question, mais pourquoi vous faites ça ? Puis nous, on leur a dit, mais c'est parce qu'on vous aime, et puis Dieu vous aime. C'est très simple. Et c'est vrai, on n'a pas essayé de cacher quelque chose. Alors, on n'a pas été plein pot l'évangile de A à Z, parce qu'il faut de la sagesse aussi. Mais voilà, c'était par amour. On a voulu montrer Jésus. Et ces gens-là ont commencé vraiment à se poser des questions, à se dire, mais il y a quelque chose là. D'ailleurs, il y a une année où ils se sont même rebellés contre le gouvernement en disant, mais c'est pas normal, ces gens-là, ils travaillent sans être payés. Et du coup, ils ont décidé de travailler sans être payés, eux aussi. Chose qui est quand même assez particulière dans ce contexte, qui est très pauvre, hein, je veux dire, dans ces villages, le petit peu d'argent qu'ils peuvent se faire, ils seront très, très contents. Mais là, ils avaient décidé pendant ce temps, juste pendant qu'on y était, c'était seulement une année, mais voilà, ils avaient décidé de ne pas être payés. Et ça, encore une fois, ça montrait l'impact que ça a eu. Alors voilà, planter des arbres, voilà, n'importe qui peut le faire. On s'est dit, donc tous les ans, on amenait des gens. En général, on est entre 80 et 100 personnes. Et là, on plante des arbres tous les jours. On plante le matin parce que c'est là où il fait le plus frais. À partir de midi, 13h, c'est plus la peine. On ne peut plus être dehors sous le soleil. On rentre et là, on est à la base de l'armée et on est assis à l'ombre, tant bien que mal, où on peut trouver de l'ombre. Et là, on discute avec les gens de la base ou les gens avec qui on a planté le matin. Et ils nous posent des questions. Et c'est là où on peut partager un peu plus personnellement, encore une fois, avec beaucoup de sagesse, mais partager l'amour qu'on a pour eux et pour Dieu. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas non plus être très... C'est vrai qu'on aimerait faire un plein air et puis prêcher Jésus dès le début. Mais il y a des fois, il faut de la patience, il faut de la sagesse et voir comment Dieu veut diriger les choses. Et ça a pris plusieurs années pour commencer à avoir un peu plus d'ouverture. Déjà chez les soldats de l'armée. Le sergent, c'est devenu un pote à moi. Il me tient la main comme ça. Comme les amoureux. Bon, mais en Afrique, c'est normal. Hein. C'est, ça ne veut rien dire. C'est juste un signe d'amitié. C'est vrai que, bon, des fois, ça gêne un peu. Mais bon, on s'habitue. Mais voilà, il nous aime tellement. Et il nous dit, mais vous savez, il y a plusieurs groupes qui viennent hein, dans l'année. Des fois, il y a d'autres groupes qui viennent, des écoles locales et tout ça. Mais vous, c'est vous que je préfère. Parce que vous, vous travaillez avec nous, vous nous servez, vous êtes là juste pour nous. Vous n'êtes pas là juste pour faire votre bonne action et après vous partez, mais vous êtes vraiment intéressé à nous. Et donc ça, encore une fois, c'est encore une graine qui a été semée. Et je pourrais parler des heures et des heures sur cette relation avec ce sergent qui vraiment change d'année en année. Et vraiment un chouette gars. Mais entre-temps, voilà, il y a plein de choses qui commencent à se développer. Alors ça a commencé par du reboisement. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qui sont passées qu'on n'avait pas vu venir. C'est que maintenant qu'il y a de la forêt, qu'il y a maintenant des arbres, parce qu'à force de planter des arbres, maintenant il y a des forêts. Alors ce n'est pas pour changer le climat, hein. ça ne change rien au climat. Moi je pensais que le reboisement c'était justement pour changer le climat, et c'est comme ça qu'après il y a la pluie qui arrive, et puis après on a des... Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui cause la désertification, ce n'est pas le climat, c'est l'être humain. Et en fait, ces tribus nomades viennent avec leurs troupeaux et ils utilisent toutes les ressources naturelles sur place. Et une fois qu'ils ont tout utilisé, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Ce qui fait que le désert s'installe. Et c'est comme ça que le désert s'étend. C'est très simple, c'est mathématique. Mais voilà, et le gouvernement sénégalais a bien compris ça. Et ils se sont dit, si on plante les arbres, ça va donner une excuse à ces peuples de rester. Et en fait, ces arbres-là, c'est les seuls qui peuvent pousser là-bas, parce que c'est tellement sec, c'est des acacias. Les populations locales utilisent tout de l'acacia, de la racine à la sève, à l'écosse, aux branches, aux feuilles, tout. C'est leur gagne-pain. Ça nourrit les animaux, ça les nourrit eux, ça leur permet de faire du feu, de construction. Ils utilisent tout. Donc maintenant, ils ont une richesse sur place. Ils n'ont plus besoin d'aller des kilomètres et des kilomètres à la ronde pour leurs troupeaux. Ils peuvent rester sur place, s'établir. Et en fait, on contribue à leur richesse en plantant des arbres. Alors vous imaginez pourquoi ils nous aiment bien. Mais moi, je n'avais jamais vu ça comme ça. Ça va beaucoup plus loin que juste changer le climat. Et donc, maintenant, les populations peuvent rester. Conséquence, les enfants n'ont plus besoin d'aller avec les troupeaux à perpète. Ils ont commencé une école. Ça non plus, j'avais jamais pensé qu'un simple projet de reboisement allait apporter une école dans cet endroit. Alors bien sûr, les enfants doivent marcher 7 à 10 km tous les jours pour aller à l'école. Mais cette école, ils ont maintenant 150 élèves. Je viens d'apprendre ça là au mois de mai quand j'y étais, elle vient d'être reconnue comme la meilleure école de toute la région, c'est-à-dire au-dessus même des écoles de la ville. Et là, il y a quelque chose d'impressionnant qui est en train de se faire au niveau de l'école. Donc, il y a 2 ans, quand on y était, on a appris ça, on était vraiment étonnés qu'il y ait une école. Et du coup, notre petite équipe FJ s'est dit, on va faire des activités avec les jeunes, avec les enfants de l'école, ce qu'on a fait tous les après-midi, jeux, apprendre des chants, des activités. Et les enfants, bien sûr, ça les a enchantés et ils parlaient que de ça. Et donc, maintenant, cet été, quand on va retourner, ils nous attendent avec impatience. Et le directeur de l'école que j'ai rencontré au mois de mai, là, il nous a donné champ libre. Il faut faire ce que l'on veut avec les enfants. Et il veut inviter les enfants des autres écoles aux alentours. Ça devient vraiment le truc des portes qui s'ouvrent qu'on n'avait jamais vraiment pensé. Et donc ça, c'était vraiment... On ne sait toujours pas comment on va faire, ce qu'on va faire, mais je crois que le Seigneur, il va nous diriger. On a une bonne équipe cet été qui va y aller, on sera à peu près 150. Et donc on se prépare justement à aller travailler avec cette école. Il y a 2 ans, on avait construit une aire de jeu pour les enfants de l'école. Et le directeur m'a dit, mais les enfants, ils viennent à l'école, ils sont contents de venir à l'école. Les parents n'ont même pas besoin de les forcer. Les enfants, ils y passeraient tous les jours, tous les jours de la semaine, si vous voulez. Ils aiment l'école et du coup, ça les encourage à apprendre mieux. Et c'est pour ça que c'est la meilleure école de la région. Donc là, cet été, on va retourner et puis on va construire des latrines, des toilettes, parce que ça devient important. Avec 150 élèves, ils ont que 2 trous. Donc voilà. Mais alors, c'est pareil. Tout ce qu'on fait au niveau construction avec eux, on ne le fait pas les blancs qui viennent avec tout le matériel, l'argent et les idées, et on fait ça pour eux et on s'en va. L'idée, c'est de venir avec la motivation, les idées, mais de travailler avec eux. Donc en fait, on leur demande eux-mêmes de rassembler tout ce qui est matériaux, c'est-à-dire le ciment, le sable et tout ça. Et puis que les parents d'élèves, les gens de la région participent, et c'est eux qui vont construire avec nous. Donc en fait, c'est vraiment un projet commun. Et en fait, la dernière fois, quand on avait fait l'aire de jeu, ça les avait motivés à justement commencer à construire les toilettes. Et donc ça, voilà, il y a vraiment un partenariat qui se fait. C'est pas, voilà. Et je crois que le directeur de l'école, il a bien compris. Au début, bien sûr, il nous demandait des sous, il nous demandait, ah, il faut nous amener ci, nous amener ça. Et on lui a dit, non, c'est pas ça qu'on va faire. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Et là, au mois de mai, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Il m'a répondu quelque chose qui m'a scié. Ben, en fait, il savait pas comment répondre. Il dit, je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce qu'ici, comme on n'a rien, on ne se pose pas la question de quoi on a besoin. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a? Et on fait avec. Alors là, je me suis dit, waouh, ça c'est un truc qu'on doit apprendre chez nous en France, un peu partout, de ne pas se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin, mais de se poser la question qu'est-ce qu'on a et de le mettre en action et de l'utiliser. Ça, pour moi, c'est un principe biblique. Et je crois que si on arrivait vraiment à vivre ça, je crois qu'on pourrait faire plein de choses dans la vie, parce que souvent, on regarde trop à nos besoins et on se sent limité et on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire parce qu'on dit on n'a pas assez. Et puis finalement, Dieu il nous dit non, mais regarde pas ce à quoi tu as besoin, ce dont tu as besoin, regarde à ce que tu as et fais avec. Et ça, pour moi, c'était une grosse leçon. Ça venait d'un enseignant musulman. Ils peuvent nous enseigner des fois. Donc voilà, l'école, c'est un gros projet. Alors, dernière chose, je pourrais vous raconter plein de choses qui se passent là-bas, mais ça, il faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Il ne pleuvait pas. Donc on ne pouvait plus planter, parce que la terre est trop dure, et sinon même les arbres ne pousseraient pas. Donc on ne pouvait pas planter ce jour-là. Ça fait 2-3 jours qu'il n'a pas plu. Alors, en tant que bonne équipe FJ, on se retrouve, on dit « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Et le Seigneur nous dit « Ben, ramassez les ordures sur la propriété. » Et c'est vrai que la base de l'armée, où on est, il y a des ordures partout. Alors, on a pris les sacs poubelles, les gants, et on a commencé à ramasser les ordures. Et alors qu'on faisait ça, tout d'un coup, il y a un gros 4x4 qui passe, vraiment bien, bien brillant, et qui s'arrête juste dehors. Et un jeune homme qui descend avec le grand boubou africain et qui marche. La manière dont il marche, on sait déjà que c'est une personne importante. Et puis qui vient et qui nous regarde et puis qui commence à discuter avec certains d'entre nous. Il a commencé à discuter. Et puis on apprend en fait que c'est le marabout de la région, c'est-à-dire le sorcier de la région. Et puis alors il dit « Mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi vous êtes là ?» Puis alors un de nos petits jeunes espagnols, très, très motivé, il dit « On est des chrétiens, on est là. » Il fait « Ah, ok. Ouais. » Et puis « Vous croyez en quoi ?» Et puis alors le petit jeune, il fait « Ah, mais nous, on croit vraiment que Dieu peut changer les choses, que Dieu peut guérir. » Et puis il commence à donner le témoignage comment sa mère était malade. Et puis qu'il a prié pour sa mère, elle était guérie d'un coup. Le marabout le regarde, il fait « Ouais, ouais, moi aussi, je peux faire ça. » Pas impressionné du tout. C'est un peu l'histoire du bâton avec Moïse. Et puis bon, alors on a continué à discuter avec lui, et en fait on a mangé avec lui le midi. Et puis il nous posait des questions, et puis c'est vrai que moi, en ayant habité dans un pays musulman pendant quelques années, je sais très bien qu'avec les musulmans, on peut parler de Dieu. En général, ils sont assez ouverts. Par contre, parler de Jésus, là ça devient vraiment un terrain difficile. Donc je lui parle de Dieu, je lui dis combien ma relation avec Dieu... voilà, que Dieu nous parle, et puis qu'il nous aime, et tout ça. Puis, il a qui est là. Oui, oui, d'accord, c'est bien. Mais c'est quoi vraiment ce que vous croyez? Et puis, en fait, il me cherche, il me dit, mais dis-moi. Je dis, bon, d'accord, ok. Tu le veux, je te le dis. Et puis là, je vais balancer l'évangile de A à Z avec Jésus qui est mort sur la croix, et vraiment, vraiment en détail. Et le gars, il écoutait. Et puis... À la fin, il dit, bon, il faut que j'y aille. Merci, c'était sympa. Merci de la discussion. Merci. Quand vous revenez l'année prochaine, on se retrouve. Il me donne son numéro de WhatsApp. Il ne parle pas français. On passe tout le temps par un traducteur. Mais bon, je prends son numéro de WhatsApp. Et puis, voilà. Et je repars à Hong Kong. Quelques jours après, je reçois un message. Non, je ne reçois pas un message, en fait. Je me lève le matin. Je vois qu'il a essayé d'appeler 3 fois pendant la nuit à cause du décalage horaire. Et puis, bon... Puis en même temps, je me dis, bon, l'appeler, c'est pas facile, il parle pas français. On va dire, bonjour, ça va, oui, ça va, oui, ça va, ça va, oui, ça va. Et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai jamais pris vraiment l'appel. Par contre, l'année d'après, quand on y est retourné, je lui ai envoyé un WhatsApp en disant, on arrive. Eh bien, le premier jour, on était de nouveau là-bas, dans le Nord. Qui c'est qu'on voit arriver avec son gros 4x4 ? C'était monsieur le marabout. Qui revient avec nous, qui a amené un petit jeune avec lui, qui s'assied, qui commence à discuter, on sort la guitare, il est content de voir les Chinois chanter, il a du bon temps avec nous. Et puis il nous dit, j'aimerais bien vous inviter à venir manger chez moi. Et puis il me dit ça à moi, et puis 2-3 responsables, et puis une des jeunes Chinoises qu'il trouvait mignonne. Et puis, alors moi j'étais content, je me dis, oh, c'est chouette, s'il veut nous inviter à manger. Alors on lui dit, oui, il n'y a pas de problème, je dis, oui. Mais ce soir-là, en réunion de responsables, nos amis africains nous ont dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Ces gars-là, ces gens-là, c'est des sorciers. Ils ont droit de vie ou de mort sur les gens dans la région. C'est pour ça qu'ils sont riches, parce que tout le monde essaie d'être en bon terme avec eux. Si tu as un problème avec ton voisin, tu vas voir le marabout, il va lui jeter un sort, ton voisin il est mort. C'est comme ça que ça marche, c'est la réalité, c'est pas des histoires dans des cantines d'enfants, c'est la réalité. Donc si vous invitez à manger, on sait pas trop ce qu'il va y avoir dans la nourriture. Voilà, nous on vous le conseille pas. Alors bien sûr, on a prié, on a demandé à Dieu et tous on a senti la paix de Dieu qui nous disait allez-y. Donc on est allé manger chez ce marabout. Alors il était en train de construire une grande villa au milieu du désert. Et puis il nous installe, il nous sert du lait caillé. Et puis tout d'un coup on voit plein d'hommes qui passent, des hommes qui viennent, qui s'installent. Il y avait une quinzaine de personnes. Et puis il nous fait « Ah, ça c'est mon cousin, ça c'est mon oncle, ça c'est mon neveu, ça c'est mon frère, ça c'est mon père ». Ça vous dérange pas, je les ai tous invités parce que je veux vraiment vous leur raconter ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ah bon, bah c'est bien, la porte est ouverte. Donc après avoir bien mangé, on s'est assis dans la chambre, ils étaient tous assis autour de nous, avec leur téléphone, parce que bien sûr en Afrique, même dans le désert, ils ont les téléphones portables maintenant. Ah, il y a du réseau, hein. Pas difficile, mais il y a du réseau. Et ils sont là, c'est bon si on enregistre, ça va si on enregistre? Oui, 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 allez-y, faites-le passer sur les antennes. Et rebelote, c'est les questions et tout ça, et on a pu partager tout l'évangile avec eux. Et donc, on est reparti. Alors, pas de grande délivrance, pas de grande conversion, manifestation, rien de tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, on ne sait pas. Là, on va retourner cet été, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais ce gars-là, il nous a dit, il nous a regardé dans les yeux, il a dit, mais vous, on vous aime, on vous accepte parce que vous venez pour nous servir. Puis nous, on lui a dit, mais c'est ce que Jésus a fait, il est venu pour nous servir. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que pour moi, en fait, c'est vrai que je suis impliqué dans ces choses-là, c'est chouette, c'est génial, mais en fait, j'ai rien à faire là-dedans, j'ai rien à voir avec tout ça. J'ai rien fait. J'ai rien fait pour faire partie de ces choses-là. J'ai obéi. J'ai juste obéi à Dieu. J'étais disponible et c'est tout. Et ce que disait Huguette avant, hein, notre rôle, c'est juste de comprendre ce que Dieu fait et de se rendre disponible, d'obéir et c'est tout. Et Dieu, il peut faire des choses extraordinaires avec nous si on est d'accord, si on est disponible. Mais souvent, on n'est pas très disponible, on est un peu occupé. Puis on a un peu nos peurs, et puis on a un peu nos préférences, et puis il y a plein de choses, des limites qu'on met à Dieu. Mais si on ne met pas de limites à Dieu, et on ne se met pas de limites, qu'on ne regarde pas à nos besoins, mais qu'on regarde à ce qu'on a, et qu'on obéit au Seigneur, eh ben, il peut faire plein de choses, des grandes choses. Et nous, on n'aura peut-être même pas le contrôle de ce qui se passe, et c'est génial, parce que c'est Dieu qui fait avancer les choses, c'est Dieu qui fait son travail. Donc c'était aussi un peu, je pense, un encouragement. Je crois qu'il va bien aussi dans le sens des choses qui ont été partagées avant. Et puis, encore une fois, de remercier l'Église et vraiment pour cette vision qui, je crois, est vraiment très forte. Donc merci encore aussi pour le soutien, pour l'amitié et puis pour tout. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'il y aurait des questions? Un petit échange, questions avant qu'on prie pour lui.